Europe 1, il est 8h.
C'est douloureux. Moi, j'ai passé 36 ans dans cette entreprise pour l'instant. J'espère y rester parce qu'on fait de belles choses. C'est vrai que c'est un pincement au cœur.
La galaxie Airbus ne brille plus. Le coronavirus a tout arrêté. Les vols, les usines, les commandes d'avions. 5000 postes seront supprimés en France. Sans parler des sous-traitants qui gravitent autour du géant européen. L'autre grand secteur industriel bleu-blanc-rouge retrouve des couleurs. Les immatriculations de voitures remontent. La prime à la conversion, ça aide. D'ailleurs, n'attendez pas la rentrée de septembre pour en profiter.
Le dispositif se termine dans la limite des 200 000 véhicules, entre le 10 et le 25 août.
Information Europe 1, la moitié des offres prévues est déjà distribuée. Au Liban, le prix du bœuf comme du mouton a triplé en 2 mois. L'armée n'en donnera plus à ses soldats. Nouveau symptôme d'un pays en faillite, nous dira Vincent Hervouette. Et puis aux États-Unis, où l'épidémie s'étend, Joe Biden, qui rêve de devenir président à la place de Donald Trump, renonce à ses meetings, mais pas à ses bons mots.
We need a president, Mr. President.
Nous avons besoin d'un président, Monsieur le Président. Un président qui dirige, qui montre l'exemple pour la nation.
À 8h15, Jordan Bardella, député européen, vice-président du Rassemblement National, au micro de Sonia Mabrouk. 8h30, vos témoignages sur le hashtag Europe 1. Faut-il mieux rembourser les consultations en vidéo, la télémédecine? François Lescure sera avec nous, président de l'Association des entreprises de télémédecine. Et puis 8h45, bien sûr, Nicolas Canteloup et la revue de presse. Il est 8h01.
Écoutez le monde changer. Le journal Mathieu Béliard, François Geffrier.
Airbus, longtemps vu comme la grande réussite européenne, est aujourd'hui le symbole d'une industrie paralysée par la pandémie. 40% de l'activité a disparu, déclare le président du groupe Guillaume Faury. Le problème, c'est que la filière aéronautique, c'est 160 000 emplois directs et indirects, rien qu'en Occitanie, dont la capitale, Toulouse, est parfois vue comme la ville Airbus.
C'est là que nous attend précisément Benjamin Péter pour Europe 1. Les chiffres ont été annoncés hier, hein, 15 000 suppressions de postes chez Airbus. 5 000 en France. Autour de vous, Benjamin, des salariés qui redoutaient ce plan social.
Oui, c'était une annonce à laquelle ils s'étaient tous préparés. Mais ce matin, ce sont des salariés à la mine grave qui viennent reprendre le travail. Comme Didier, qui a travaillé sur des programmes mythiques comme la 380. Savoir que 15 000 personnes vont quitter le groupe, c'est très douloureux.
Tout le monde est très inquiet. En plus, je trouve que la période du mois de juillet n'est pas forcément la meilleure période pour annoncer ça. Les gens vont partir en congé. C'est douloureux. Moi, j'ai passé 36 ans dans cette entreprise pour l'instant. J'espère y rester parce qu'on fait de belles choses. Et c'est vrai que c'est un pincement au cœur.
Il espère que les négociations avec les partenaires sociaux permettront de réduire le nombre de suppressions d'emplois. Mais Françoise Valin, de la CFE-CGC, s'attend à des discussions très tendues.
Ces chiffres ont été un choc. Le dispositif ne nous rassure pas. On parle encore, pour le moment, de départs non volontaires. Ça ne s'est jamais vu dans le groupe. Je pense que là, on va avoir une grosse bataille. Ça va être le combat dans toute la filière. Parce que vous imaginez qu'avec des mesures pareilles, chez le chef de file de la filière, les conséquences que ça va avoir pour d'autres entreprises.
Alors ce matin, chez nos confrères de la Dépêche du Midi, Guillaume Faury, le PDG d'Airbus, se veut rassurant. Il précise que ce plan ne prend pas en compte les mesures du gouvernement, notamment le chômage partiel de longue durée, qui pourrait concerner beaucoup de cols bleus ici. Il évoque aussi des départs anticipés à la retraite, mais n'exclut pas totalement des licenciements secs.
Benjamin Péter, en direct de Toulouse pour Europe 1.
Bonjour Jean-Michel Seigneuret.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes PDG du groupe Seigneuret, spécialisé dans la sous-traitance aéronautique. Vos clients se nomment Airbus, Dassault Aviation, Daher. Vous n'avez pas l'envergure, la taille, la masse de ces groupes-là. Est-ce que vous êtes en danger ?
Nous sommes bien évidemment en danger, comme toute entreprise de la filière aujourd'hui. L'annonce d'Airbus, finalement, n'est que la conséquence aujourd'hui de la diminution de 40% des cadences qui se traduit chez les sous-traitants entre 50 et 60, 70% de baisse de carnet de commandes.
15 milliards d'euros annoncés il y a tout juste 3 semaines, hein, de soutien public à l'aéronautique. Hier soir, le gouvernement jugeait excessif le nombre de suppressions de postes annoncées par Airbus avec ce plan qu'on met en perspective. Est-ce que ça vous paraît aussi excessif ?
Alors, si on considère que Airbus diminue de 40% ses cadences et annonce un plan social de 10% de ses effectifs, finalement, ça me paraît être quelque chose de malheureusement assez cohérent et en ligne avec les cadences de production actuelles et la diminution du trafic et le quasi-arrêt du trafic.
On parle d'un arrêt durable du trafic aérien, plusieurs années pour s'en remettre. Est-ce que votre entreprise et toutes les autres de la filière doivent penser à faire autre chose, se reconvertir ?
Alors, ça fait maintenant depuis fin mars, début avril qu'on travaille tous les uns les autres vers ce qu'on appelle la diversification et le rebond, mais c'est quelque chose de très difficile dans ce contexte où on arrive en France a de la surcapacité de moyens de production. Et donc ça, ce n'est pas évident à gérer.
Merci Jean-Michel Seigneret. On vous avait eu au téléphone il y a quelques semaines sur oui. Europe 1, PDG du groupe Seigneret, invité, sous-traitant hein, de l'aéronautique, invité du journal de 8h d'Europe 1 en direct ce matin.
Chez Air France, la sentence est de 7500 suppressions de postes d'ici 2022. Les lignes régionales HOP seront très touchées. La compagnie n'exclut pas, là aussi, des licenciements.
Europe 1, il est 8h05.
Ça paraît tout petit. L'augmentation des immatriculations au mois de juin, plus 1,2%. Mais vu la période, vu ce qu'on vient d'entendre et vu que l'on compare à juin 2019, autrement dit la préhistoire de toute cette crise économico-sanitaire, la nouvelle est bonne à prendre. La prime à la conversion n'y est sans doute pas pour rien.
Jusqu'à 3000 euros si vous mettez votre ancienne voiture à la casse pour en acheter une plus récente. 5000 euros si vous optez pour de l'électrique. Ne tardez pas trop hein, car 100 000 primes à la conversion ont déjà été utilisées en un mois. Information Europe 1, signé Aurélien Fleureau.
Les primes à la conversion ont représenté entre 15 et 20% des transactions depuis le lancement du dispositif le 1er juin dernier. L'assouplissement des critères pour en bénéficier a fonctionné. La prime à la casse version 2018-2019 tournait au rythme de 10 000 par semaine. C'est désormais deux fois plus, explique Christophe Morel, président des concessionnaires au sein du CNPA.
On est sur un rythme de bien 20 000 primes par semaine. Selon nos estimations, le dispositif se terminerait dans la limite des 200 000 véhicules mis au rebut entre le 10 et le 25 août.
Les constructeurs se félicitent de ces chiffres. Le mois de juin aura bien été celui de la relance du marché, sans garantie sur le long terme, mais au moins un soulagement de revoir des clients en concession, notamment grâce à cette prime à la conversion, comme l'a constaté Vincent Cobé, directeur général de Citroën.
Ça montre l'importance de ces processus de reprise. On les voit et on voit un effet tout à fait marquant dans les commandes que nous avons prises au cours des deux dernières semaines. Oui.
Et si le CNPA estime donc la fin de ces 200 000 primes à la conversion d'ici 5 à 6 semaines, les professionnels espèrent une prolongation du dispositif, même sous une forme différente.
Les détails sont à retrouver sur Europe1.fr, tout comme la liste des petits changements qui interviennent en ce 1er juillet. Nous sommes au milieu de l'année.
Oui, des tarifs en hausse ou en baisse, Olivier Samin, et des nouveautés sociales aussi.
Il y a d'abord l'entrée en vigueur du dispositif de chômage partiel de longue durée qui va permettre à une entreprise confrontée à une baisse durable de son plan de charge de continuer à payer ses salariés 84% de leur salaire net et même 100% s'ils sont au SMIC pendant une période qui pourra aller jusqu'à 2 années. Il s'agit d'une aide de l'État, mais son versement est conditionné à la signature d'un accord avec les syndicats, accord qui doit prévoir des engagements sur l'emploi. L'autre grande mesure sociale qui entre en vigueur aujourd'hui, c'est la possibilité pour les entreprises de toucher une prime de 5 000 euros pour chaque embauche d'apprenti et même de 8 000 euros si l'apprenti est majeur. Enfin, toujours dans le champ social, les allocations chômage sont revalorisées de 0,4% à compter d'aujourd'hui. Du côté des prix à la consommation, retenez une baisse et une hausse. La baisse, c'est celle du tarif réglementé du gaz distribué par Engie, moins 0,3%. La hausse, c'est celle de certaines marques de cigarettes, avec un paquet qui augmente, selon les cas, de 10 à 20 centimes.
La ministre des Sports demande aux mairies de rouvrir les piscines, puisque la baignade y est surveillée. « Je veux rassurer tout le monde, dit-elle, il y a beaucoup de chlore dans l'eau. Le virus ne se transmet pas par l'eau. » Roxana Maracineanu, qui s'y connaît en tout cas en piscine, puisqu'elle fut championne du monde du 200 mètres d'eau. Quant aux experts de la gestion épidémique, ils continuent d'être auditionnés par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Cet après-midi, l'ancienne ministre socialiste Marisol Touraine, puis Roselyne Bachelot seront face aux députés.
Europe 1. Vous restez avec nous dans un instant, une campagne présidentielle sans meeting, décision spectaculaire de Joe Biden aux États-Unis.
Et puis une armée qui devient végétarienne. Le Liban n'a plus d'argent pour acheter de la viande à ses soldats.
A tout de suite.
Europe 1, il est 8h10, la suite du journal. François Geffrier, Mathieu Béliard.
Et ce tweet de Donald Trump, « Quand je regarde la pandémie répandre son horrible visage à travers le monde », écrit-il, « je deviens de plus en plus en colère contre la Chine ».
Les États-Unis, où 29 États ou territoires voient aujourd'hui la courbe des nouveaux cas de contamination monter. Le candidat démocrate à la présidentielle, Joe Biden, ne tiendra plus aucun meeting jusqu'au vote. Et il attaque son rival.
Les contaminations continuent d'augmenter et Donald Trump ne fait presque rien. Le peuple américain n'a pas fait tous ses sacrifices ces 4 derniers mois juste pour voir leurs efforts gâchés. On ne peut pas continuer comme ça. Une moitié qui porte un masque et l'autre qui rejette la science. Monsieur le Président, cette crise est bien réelle. Les Américains savent qu'elle n'est pas derrière nous, même si vous ne le savez pas. Ils voient ce qu'il se passe, même si vous refusez de le voir.
We need a president, Mr. President.
Nous avons besoin d'un président, Monsieur le Président. Un président qui dirige, qui montre l'exemple pour la nation. Portez un masque.
Wear a mask.
Gardez vos distances.
Keep your distance.
Joe Biden. Au Proche-Orient, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pourrait annoncer aujourd'hui le détail de son plan d'annexion de la vallée du Jourdain, dont la ville antique de Jéricho, soit 30% de la Cisjordanie, une vallée où vivent 65 000 Palestiniens et 11 000 colons israéliens. Cela ferait bouger les frontières pour la première fois depuis l'annexion du plateau du Golan en 1981.
Crise économique, crise sociale, bien avant la pandémie. Hein, le Liban était déjà en grande difficulté. La contestation en sourdine pendant le confinement s'est réveillée et elle est proche du désespoir.
La classe moyenne est touchée, Vincent Hervouet, et c'est désormais l'alimentation des Libanais qui est contrainte.
Oui, François, si le moral des troupes est au fond de la gamelle, les soldats libanais ont de quoi déprimer. Ils sont depuis hier et jusqu'à nouvel ordre privés de viande. Ils vont jeûner parce que les prix du bœuf et du mouton ont triplé en 2 mois. L'hyperinflation emporte tout, les galettes de pain ont pris 30% hier, et les Libanais se serrent la ceinture. La cuisine libanaise évoque les mezzés, le faste des banquets, mais c'est un souvenir aussi vieux, aussi faux que la carte postale du Liban suisse du Moyen-Orient. Les frigos sont vides, la classe moyenne qui faisait la force du pays est à genoux, elle a faim.
Au départ, il y a cette équation, un pays en faillite qui ne peut plus payer les intérêts de sa dette.
Il n'y a plus un dollar en circulation, des milliers d'entreprises ont fermé, la moitié de la population est passée sous le seuil de pauvreté. On croit qu'avec leur goût d'entreprendre, les Libanais vont s'en sortir, mais l'équation politique est pire. La classe politique s'est goinfrée, elle refuse toute réforme et elle a laissé le Hezbollah noyauter l'État de haut en bas. L'ambassadeur américain à Beyrouth a fait scandale ce week-end en disant que le Hezbollah empêchait toute solution économique. C'est un aveu. Les États-Unis ne font plus crédit, ils exercent une pression maximum sur l'Iran et sur ses alliés, tant pis pour le Liban. Ce discours met les Libanais en colère, il est inaudible, ventre affamé n'a pas d'oreille.
Le regard international de Vincent Hervouet, c'est tous les jours dans le journal de 8h d'Europe 1.
Revenons en France, près de chez nous, là où beaucoup de Français avaient pris l'habitude de faire leurs courses pendant le confinement, c'est-à-dire en direct. Chez les producteurs.
Oui, le circuit court, s'approvisionner à la ferme. Était-ce une bonne résolution? Vous savez ce que c'est, on ne les tient pas longtemps et les agriculteurs sont aujourd'hui un peu déçus, François Coulon.
Pendant 2 mois, Vincent Ravard, maraîcher bio à la Chapelle Basse-Mer, a explosé les compteurs, comme il dit, 3 fois plus de chiffre d'affaires et de clients que d'habitude. Mais depuis le déconfinement, le soufflet est totalement retombé.
Ça n'arrêtait pas. Une période assez fatigante, beaucoup de boulot. On était hyper contents qu'il y ait un engouement comme ça.
Tous ces nouveaux clients, aujourd'hui, vous ont laissé tomber?
Ouais, il y en a 10% qui reviennent. Ils ont repris les mauvaises habitudes. Retour aux grandes surfaces, servir au galop. Moi, ça me fait mal au cœur.
Ce sont surtout les files d'attente et la crainte d'attraper le virus en grande surface qui ont motivé l'engouement, beaucoup plus qu'un changement profond de comportement alimentaire. Perrine, mère de 2 enfants.
Les fermes, c'est des horaires toujours assez restreints. Alors que là, c'est ouvert tout le temps, jusqu'à 8h du soir. Question de pratique, c'est un petit peu moins cher.
Vous avez une mauvaise conscience, là, à retourner au supermarché?
Un peu, parce que je sais qu'on peut faire autrement.
Dans la presqu'île de Ré, Terroir 44 a multiplié par 5 ses paniers hebdomadaires. On s'est vraiment décarcassé, dit Jean-Paul, et on nous a vite oublié. La Chapelle Basse-Mer, François Coulon, Europe.
Ah, c'est dur, la mauvaise conscience, ça fait toujours mal.
Vous faites vos courses en circuit court, vous, François Geffrier?
À Paris, il n'y a pas beaucoup de fermiers. Dans le 15e arrondissement.
Non, c'est vrai. Moi, je suis encore sur le stock de coquillettes de mes courses du 10 mars. Ah, bon, on va
combien
bientôt
vous avez
terminer.
Acheté un an de coquillettes.
C'est ça, merci François Geffrier. Vous êtes sur Europe 1, évidemment, la vie qui reprend ses droits. Certains vont continuer dans les habitudes qu'ils ont installées pendant le confinement. D'autres reviennent à la normale. C'est ainsi, vous allez témoigner d'ailleurs sur ce sujet du confinement, des confinements, au sujet de la télémédecine à 8h30 tout à l'heure. On va en parler. Pour l'heure, à 8h15, nous retrouvons Sonia Mabrouk et son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Le secteur aérien en pleine tourmente avec des milliers d'emplois menacés. Des soignants dans la rue pour réclamer plus. Le social en pleine ébullition. Notre invité a-t-il des solutions concrètes? Le vice-président du Rassemblement National, Jordan Bardella.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, il est 8h18, la matinale. Mathieu Béliard.
Et votre invité, Sonia Mabrouk, c'est le vice-président du Rassemblement National, Jordan Bardella.
Bienvenue ce matin sur Europe 1 et bonjour Jordan Bardella.
Bonjour.
Airbus va supprimer 15 000 postes, dont 5 000 en France, des milliers de postes menacés chez Air France, avec peut-être des licenciements. C'est inévitable?
c'est la conséquence des faiblesses du gouvernement, dont je vous rappelle que le ministre de l'économie a accordé 7 milliards d'euros d'aide publique, donc de l'impôt de nos compatriotes à Air France, sans exiger la moindre contrepartie derrière en termes de maintien de l'emploi. Donc c'est évidemment la conséquence des faiblesses du gouvernement.
Il aurait fallu conditionner ces aides à une interdiction des licenciements pour Air France.
Oui, bien sûr, il aurait fallu conditionner ces aides au maintien de l'emploi. Ça n'a pas été fait pour Air France, ça n'a pas été fait pour Renault, avec derrière des conséquences qui sont importantes en termes de casse sociale. La réalité, c'est que l'emploi subventionne donc aujourd'hui le licenciement, puisqu'on donne de l'argent à des grands groupes.
On va attendre de voir si ce sont des départs contraints, on ne le sait pas pour le moment.
En fait, ce sont des départs volontaires, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui, dans cette période difficile qui s'ouvre en matière économique, sont volontaires pour quitter leur emploi. Sans parler évidemment de l'indécence du patron d'Air France qui s'est octroyé une prime de 800 000 euros. Je vous rappelle que l'État français l'a validé en tant qu'actionnaire, ce que n'a pas fait le gouvernement des Pays-Bas avec qui évidemment la France se partage.
Si je vous entends bien,
France,
Jordan Bardella, vous remettez en cause ce matin du coup le bien fondé de l'aide apportée par l'État à la compagnie aérienne.
Je pense que le gouvernement a lâché les salariés d'Air France. Je pense qu'il a lâché les salariés d'Air France en exigeant aucune contrepartie. Nous avions, nous, réclamé ces contreparties. Ça me semblait un principe de bon sens que d'accorder de l'argent public à une entreprise, que d'accorder de l'aide à une entreprise en difficulté pour que cette entreprise, derrière, puisse évidemment assurer le maintien de l'emploi.
Est-ce que c'est du bon sens ou est-ce que c'est de la démagogie ? Parce que ce que vous dites est économiquement intenable et en plus, vous le savez.
Non, parce que c'est un prétexte. En réalité, l'épidémie, elle a bon dos parce que c'est le 12e plan de départ volontaire chez Air France en 10 ans. On va essayer, évidemment, de supprimer des lignes, notamment des lignes régionales, des petites lignes, alors qu'on sait que face à la difficulté de la baisse de l'activité au niveau international, c'est vrai que ces petites lignes qui ont connu une augmentation importante de leur activité ces 10 dernières années de près de 70% ont évidemment un rôle très important dans l'attractivité d'un certain nombre de territoires périphériques.
Mais M. Bardella, Air France, comme d'autres compagnies, ne connaîtra un retour à la normale de son trafic que d'ici 3 ans. 3 ans, comment vous voulez les empêcher de se restructurer ? Sinon, c'est la faillite.
Mais c'est à l'État qui est actionnaire de pouvoir soutenir ces entreprises aussi. Je vous donne un exemple. En Allemagne, le gouvernement allemand est monté à 25% du capital de la Lufthansa, ce qui veut bien dire que...
Et la Lufthansa qui va supprimer près de 9000 postes.
Que quand un gouvernement
Monsieur Bardella, 9000 postes pour la Lufthansa.
Le contexte est différent. Ah, mais sur
alors
le
là,
principe,
on trouve des circonstances atténuantes.
Sur le principe, l'entreprise, en tout cas une entreprise qui reçoit de l'argent public, ça doit évidemment être conditionné
au
maintien
de l'emploi. Non, mais vous prenez l'emploi. L'exemple
sinon,
allemand, Lufthansa.
À quoi sert le versement de l'argent public ?
La Lufthansa va supprimer 9000 postes malgré une aide colossale et conséquente de l'Allemagne.
À quoi sert le versement d'argent public à une entreprise qui se sert de cet argent public pour faire des économies et notamment pour supprimer des postes derrière ? Donc je dis que c'est profondément indécent, que c'est encore une fois un acte de faiblesse du gouvernement qui aurait dû effectivement faire beaucoup plus et exiger que l'emploi soit maintenu en contrepartie de ces aides publiques importantes qui ont été données. Enfin, on ne parle pas d'un spéculoos, on parle de 7 milliards d'euros, donc des aides publiques importantes données à Air France.
Oui, mais vous êtes un eurodéputé, vous regardez ce qui se passe sur le plan aérien, vous avez pris l'exemple de la Lufthansa, on peut prendre l'exemple de la British, toutes ces compagnies aujourd'hui restructurent, dire non à Air France et aller vers une faillite. Est-ce que vous auriez assumé ça si vous étiez aux responsabilités ?
Non, je ne le crois pas parce que nous avons toujours indiqué que lorsqu'une entreprise était menacée, soit il fallait évidemment monter au capital, soit il fallait en tout cas la nationaliser. Je crois que ce n'était pas en tout cas le cas de figure pour Air France. En tout cas, l'État aurait pu évidemment s'impliquer davantage et surtout exiger des contreparties. Mais c'est vrai que cet esprit de faiblesse qui caractérise le gouvernement entraîne évidemment des conséquences sociales qui sont évidemment dramatiques derrière.
Et vous, au pouvoir, vous auriez été fort. Est-ce que ce n'est pas facile ce matin, ça ne mange pas de pain, de dire pas de licenciement, mais une fois qu'on est au pouvoir, on doit tenir compte de la concurrence, on doit tenir compte d'un secteur qui est dans des très grandes difficultés ?
Non, c'est faux, parce que regardez sur l'aide du chômage partiel, par exemple, qui voit le jour en ce 1er juillet, une évolution du chômage partiel, il y a des exigences en termes de maintien de l'emploi derrière. Donc je veux dire, on impose toujours à nos TPE, PME, à nos petites et moyennes entreprises des conditions, des normes administratives qui sont extrêmement lourdes, extrêmement importantes et qui parfois les empêchent de se développer. Et on a toujours, c'est vrai, une certaine forme d'angélisme et de tolérance sur des pratiques qui ne sont pas acceptables à l'égard de grands groupes. Donc il faut évidemment traiter tout le monde de la même manière. Et lorsque, évidemment, on met de l'argent public, il faut exiger derrière des contreparties.
Mais il faut que ce soit pareil sur le plan européen. Sinon, entre la Lufthansa et Air France, il va y avoir une distorsion de concurrence.
Je suis pas député allemand,
je suis député
français.
Mais vous m'avez pris l'exemple. Alors moi,
je vous dis que lorsqu'une entreprise est menacée, l'État ne doit pas évidemment hésiter à monter au capital.
Devant la commission d'enquête parlementaire, Jordan Bardella, Agnès Buzyn s'est défendue de tout retard dans la gestion de la crise sanitaire. Au contraire, nous avons anticipé, a-t-elle dit, sous serment. Vous la croyez ?
Non, je ne la crois absolument pas.
Et
je me mets, en tout cas, je ne sonde pas les cœurs et les reins, mais je me mets à la place d'une infirmière ou d'un médecin qui, durant cette épidémie, a manqué d'absolument tout, à qui la ministre de tutelle, c'est-à-dire la ministre de la Santé, vient expliquer qu'elle avait anticipé et qu'elle était prête. Donc oui, c'est purement délirant. Nous avons manqué de masques, nous avons manqué de tests, nous avons manqué de surblouses, nous avons manqué d'un certain nombre de produits, notamment qui sont utilisés, des produits médicaux. De médicaments qui sont utilisés dans les anesthésies. Et lorsqu'effectivement la ministre de la Santé vient dire nous étions prêts, nous avions anticipé, oui, je pense qu'on vit manifestement pas dans le même monde.
Oui, mais est-ce que c'est un mensonge ? Est-ce que vous estimez. Ah oui, mensonge. Est-ce que c'est une mauvaise gestion ou est-ce que c'est un mensonge dans ce cas-là d'État ?
Alors d'abord, le gouvernement a menti en expliquant, par exemple, pour dissimuler les pénuries de masques, que les masques n'étaient pas utiles. Mais manifestement, la ministre de la Santé a menti aussi parce que, souvenez-vous, dans ses déclarations qu'elle avait faites au Monde il y a quelques semaines, elle expliquait, alors elle nous explique maintenant qu'elle était un petit peu fatiguée, mais elle nous expliquait très clairement qu'elle savait pertinemment que le second tour des élections municipales ne pourrait avoir lieu. Elle savait pertinemment que le tsunami allait venir, elle le dit elle-même, et elle s'aperçoit évidemment un petit peu plus tard qu'elle a fait une erreur. Mais en réalité, ce gouvernement est passé totalement à côté de cette crise.
Sur les masques,
et
justement.
Et nous avions tiré la sonnette d'alarme dès le 11 février à l'Assemblée nationale en demandant l'état de nos stocks de masques, de tests, en demandant qu'il était essentiel d'anticiper. C'est ce qu'avait demandé Marine Le Pen devant l'Assemblée nationale. La ministre de la Santé lui avait répondu qu'on était prêts.
Sur ce sujet, Jordan Bardella, vous dénoncez justement ce manque de masques, mais il y a quelques années, votre parti, le RN, autrefois FN, reprochait lors d'une autre crise, c'était le H1N1, au gouvernement de l'époque, d'avoir trop commandé de masques. En fait, quelle que soit la doctrine, vous vous opposez. Parfois c'est trop, parfois c'est pas assez, mais c'est contre.
Vous me parlez d'une crise qui a eu lieu en 2011. 2010 ou 2011. Je veux bien qu'on essaie, si vous voulez, d'aller nous reprocher ce qu'on a pu dire en 2010. La réalité, c'est qu'on a été les premiers dans cette crise à demander la fermeture des frontières avec des pays qui étaient des pays foyers de l'épidémie, notamment avec la Chine. On nous a expliqué que ça n'avait aucun intérêt. Le président de la République a même parlé d'un repli nationaliste pour fermer les frontières deux mois après. Nous avions été les premiers à tirer la sonnette d'alarme à l'Assemblée nationale sur les quantités de stocks et de masques que nous n'avions pas manifestement.
Vous avez tout anticipé.
Je dis juste que si nous avions mis en œuvre... Moi, je n'ai pas la prétention de dire qu'avec le Rassemblement national ou qu'avec nos solutions, il n'y aurait pas eu d'épidémie. Je dis juste que les mesures que nous préconisions étaient des mesures de bon sens, de précaution, qui ont été mises en place bien tardivement en France et qui, peut-être, si elles avaient été mises en place dès le début, auraient permis d'enrayer effectivement une grande partie des cas de la diffusion de l'épidémie.
Sur les leçons des municipales, Jordan Bardella, il a eu raison, lui, à Lyon. Lui raison de gommer le nom de Marine Le Pen et l'étiquette RN, sa victoire en atteste.
Mais je veux bien qu'on cherche à faire croire que Louis Alliot a tout fait pour se détacher du Rassemblement National. Vous élisez, en tant que maire, non pas un parti, mais une personne.
J'ai dit qu'il n'a jamais invité Marine Le Pen à Perpignan. Là, vous êtes d'accord qu'il n'y avait pas le logo du RN non plus. Vous êtes d'accord et on peut souligner qu'il avait une bonne stratégie pour gagner.
Tout le monde, localement, sait que Louis Alliot est du Rassemblement National. Je veux dire, ça a été peut-être l'une des villes les plus médiatisées en France pour le Rassemblement National. Il est un dirigeant du Rassemblement National. Il est député de la circonscription du Rassemblement National. Donc, je veux dire, il n'y a pas de débat là-dessus. Maintenant qu'on cherche évidemment, dans le cadre d'élections de personnes, que ce soit pour l'élection municipale ou l'élection présidentielle, à dépasser le cadre du Rassemblement National, je trouve ça sain, je trouve que c'est bien, c'est positif. Et ça
donc, il y a une vraie stratégie qui est la sienne et qui a fonctionné, par exemple.
Oui,
on peut peut-être la rapprocher à la stratégie de Robert Ménard aussi de Béziers. Parfois, on peut gommer le RN, finalement, pour gagner. L'eupénisme peut survivre.
Le Rassemblement National apporte évidemment des voix, mais qu'on cherche à dépasser, à aller au-delà. Vous voyez, tous les thèmes qu'on porte depuis des années sur le patriotisme économique, l'indépendance nationale, la fermeté qui est nécessaire aujourd'hui en matière de sécurité ou de justice, sous ces termes, sont des idées qui sont majoritaires dans l'opinion. Je crois que nos idées sont majoritaires aujourd'hui dans le pays et c'est vrai que pour cela, il faut peut-être parfois dépasser le cadre des partis politiques pour convaincre des gens qui peut-être hier ont été en désaccord avec nous.
Et dépasser peut-être aussi l'image de Marine Le Pen. Non mais c'est la première fois que je l'entends dans votre bouche, c'est intéressant.
Regardez, aux européennes, nous ont rejoint des gens comme Thierry Mariani qui ont été ministre de Nicolas Sarkozy et qui ont fait le choix aussi de nous rejoindre. Donc évidemment, nous tendons la main à tous les amoureux de la France, à tous les patriotes, à tous les souverainistes. Et c'est vrai que
tendre la main, ça peut passer par gommer le logo ou parfois la photo de Marine Le Pen.
Élection présidentielle, par exemple, les partis politiques disparaissent au profit des individualités qui se présentent. Donc évidemment, nous ne sommes pas aujourd'hui fermés. Nous sommes un grand mouvement ouvert qui agrège à lui des gens qui viennent de l'extérieur. Ça a fait la réussite de Louis à Perpignan et je pense que ça fera notre réussite à l'élection présidentielle.
Merci Jordan Bardella d'avoir répondu à nos questions ce matin et puis bonne journée à vous.
Bonne journée.
Merci Sonia Mabrouk, il est 8h28.
Europe 1.
Un retour d'expérience ce matin, nous allons parler de la télémédecine, des téléconsultations. Les professionnels demandent un élargissement des remboursements. Dites-nous sur le hashtag Europe 1 quelle a été votre expérience, en particulier pendant le confinement bien sûr, mais pas seulement. A tout de suite.
Europe 1. Europe
Europe 1, il est 8h31, vous êtes avec Mathieu Béliard et la question que nous vous posons, avez-vous succombé à la télémédecine après le confinement? Vous échangez avec François Lescure, médecin et président de l'Association des entreprises de télémédecine, vos questions avec le hashtag Europe 1.
Bonjour François Lescure.
Bonjour Mathieu.
Et merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin. On va parler de la télémédecine, on va parler de la téléconsultation, du retour d'expérience aussi des Français pendant le confinement, parce que le recours à la téléconsultation a explosé évidemment à partir du moment où on s'est confiné. Qu'est-ce que vous avez constaté déjà en termes de chiffres comme évolution ces dernières semaines ?
Je crois que la crise du Covid a très clairement montré que il n'y avait malheureusement pas d'alternative, puisque les cabinets médicaux étaient pour la plupart fermés et les urgences débordaient. Donc il n'y avait pas vraiment d'alternative et donc les Français ont effectivement utilisé largement la téléconsultation, ce qui est très bien parce que ça montre que c'est un bon moyen d'accéder aux soins même à distance. Et puis les chiffres l'ont montré, on l'a tous vécu, des augmentations très très significatives de demandes, pas forcément des demandes de consultation nécessairement avec des ordonnances ou des prescriptions à la fin, mais aussi beaucoup d'interrogations et d'inquiétudes de la part des Français sur la crise.
Oui, évidemment, et puis pour le suivi médical de certains, c'était parfaitement indispensable. On a été poussé, hein, comme beaucoup de sauts technologiques pendant ce confinement, on a été poussé pour certains vers la téléconsultation. Quand je vous demandais la mise en place de cette téléconsultation, aujourd'hui, elle est faisable techniquement. Mais comment ça marche ? C'est de smartphone à smartphone, il y a un matériel adapté, certains passent par des plateformes ?
Alors, honnêtement, c'est très simple. Je pense qu'on a tous vécu aussi pendant ce confinement l'usage des outils de visioconférence ou le téléphone vraiment de façon très large. Ce qui change un tout petit peu dans le domaine de la santé, c'est que on est contraint à sécuriser les échanges, on est contraint à rendre le système confidentiel. Donc, on ne peut pas utiliser les outils qu'on utilise normalement pour faire de la visioconférence entre amis ou professionnellement. Donc on est obligé d'utiliser des systèmes qui sont plus protégés, plus sécurisés et qui permettent une confidentialité parfaite entre le praticien. Mais ensuite, le patient, il a le choix, il peut se connecter à son médecin traitant, se connecter à une plateforme, il a diverses modalités de mise en relation avec un médecin. Sous réserve, en tout cas, qu'il soit dans les règles qui sont imposées.
Alors, beaucoup de questions et de témoignages aussi de nos auditeurs sur le hashtag Europe 1. Simplement, pour terminer, présenter le sujet, si j'ose dire, la question aujourd'hui, c'est celle du remboursement. Vous demandez un meilleur remboursement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est remboursé en téléconsultation ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Que pouvez-vous faire ou surtout ne pas faire par rapport à un médecin en cabinet classique ?
Alors, ce que nous, on rassemble en fait l'ensemble des sociétés qui travaillent autour de la télémédecine, parce que je ferai référence au programme Ma Santé 2022 défendu par le ministère et Dominique Pont et Laura Letourneau, qui est de créer une vraie filière de santé numérique, c'est-à-dire demain, les parcours de soins seront des parcours de soins qui vont inclure un certain nombre d'éléments digitaux, numériques, dans la prise en charge des patients. Et nous sommes organisés plutôt sous forme de plateforme, c'est-à-dire de sorte de clinique virtuelle, dans lequel il y a une organisation des médecins, des professionnels de santé. Et donc, ce que nous, on aimerait aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on soit reconnu comme des acteurs de soins. À partir du moment où on est reconnu comme des acteurs de soins, on peut prendre en charge un certain nombre de patients. Et on a le principe dérogatoire qui est proposé par la CNAM. On aimerait juste qu'il perdure et qu'il soit élargi pour pouvoir prendre en charge un certain nombre de patients qui sont notamment dans des zones où vous savez comme moi qu'il y a ces mornes pleines.
Des déserts médicaux, évidemment, et c'est le fond du sujet. D'ailleurs, j'ai cette question, est-ce qu'on ne peut pas au moins imaginer dans un premier temps des remboursements pour les patients enclavés dans des déserts médicaux ? C'est peut-être déjà une première piste ou c'est insuffisant pour vous ?
C'est déjà une première piste. Nous sommes en discussion avec un grand nombre de personnes et je pense qu'il y a une vraie ouverture d'esprit, donc c'est plutôt très intéressant. Et si on veut vraiment créer une filière industrielle autour de la télémédecine, parce que ça prend aussi le matériel, ça prend aussi l'intelligence artificielle, l'usage des données. Vous voyez, demain, la prise en charge d'un patient sera multifactorielle. Donc si on veut créer une vraie intelligence économique, une vraie filière de développement en France qui, je pense, on a tous les atouts pour le faire. Il faut qu'effectivement la sécurité sociale joue le jeu et l'assurance maladie joue le jeu sur ce terrain-là. Mais c'est un vrai challenge. Hein.
Isabelle nous écrit, est-ce que tous les médecins peuvent téléconsulter ou est-ce que c'est propre à certaines spécialités ? D'ailleurs, je vais ajouter au passage qu'il n'y a pas que les médecins, il y a aussi du personnel paramédical.
Et oui, tous les médecins, les kinés, je crois aujourd'hui les sages-femmes, à vérifier, mais il y a un grand nombre de professionnels de santé sont tout à fait habilités à faire des téléconsultations.
Carole nous écrit, elle vous titille un peu Carole sur le hashtag Europe 1, est-ce que ce n'est pas un moyen de recevoir encore plus de patients et donc d'augmenter les revenus des médecins ? C'est vrai que les journées, il y a moins de perte de temps, on va dire, avec la consultation à distance.
Ben, c'est pas forcément vrai ça, parce que si le médecin fait une vraie consultation, il va prendre le temps équivalent ou presque équivalent à ce qui va changer, c'est le fait que sa salle d'attente sera pas aussi pleine que d'habitude, puisque les gens seront en ligne. Ce qui va changer un petit peu, c'est la façon dont il va conduire l'interrogatoire du patient, parce que l'interrogatoire du patient à distance n'est pas le même que présentiel. Enfin, que présentiel, c'est-à-dire que face à face. Donc, non, je pense que c'est... Soyons totalement ouverts à l'émergence d'une nouvelle... d'un nouveau moyen de consulter. L'important, en fait, c'est pas le moyen, c'est la fin. La fin, la finalité de ce qu'on veut faire, tous les médecins, la finalité de ce qu'ils veulent faire, c'est quand même soigner. Et donc, prendre en charge un certain nombre de patients. C'est pour ça aussi qu'on a déposé, nous, ce qu'on appelle un article 51, qui est une proposition de prise en charge d'un certain nombre de patients qui n'ont pas accès aux soins. Donc, nous oublions le moyen ou la façon dont on va utiliser. Ce qui est important, c'est la finalité de ce que tous les médecins et le ministère de la Santé veut faire, c'est soigner et prendre en charge.
8h38. Europe 1. Je vous garde avec nous évidemment François Lescure, président de l'association des entreprises de télémédecine. En attendant aussi d'autres auditeurs sur le hashtag Europe 1, vous avez essayé la téléconsultation pendant le confinement en particulier. N'hésitez pas, retour d'expérience ce matin. Hashtag Europe 1, on revient dans quelques secondes.
Il est 8h39, votre invité Mathieu Béliard est le médecin et président de l'association des entreprises de télémédecine François Lescure. On vous demande, êtes-vous adepte de la télémédecine ? Vous témoignez, réagissez avec le hashtag Europe 1.
Avez-vous essayé, tout du moins, j'ai quelques témoignages, mais François Lescure, il va vous plaire le mail de Jean-Paul ce matin. Je suis médecin et j'ai besoin, insiste-t-il, de voir mon patient en entier, pas juste un visage dans un écran, de le voir se lever dans la salle d'attente, de lui serrer la main, d'observer la démarche, de le regarder s'asseoir, la couleur de sa peau, etc. La télémédecine, ça n'est pas de la médecine, point, nous dit Jean-Paul.
Bon, c'est son avis, mais je ne le partage pas, mais ça ne vous étonnera pas. Mais je pense que la plupart des médecins qui travaillent avec nous, en fait, on est toujours sur un débat d'opposition, ce qui est un peu dommage parce que, vous voyez, il y a une position de dire, il y en a certains qui disent la télémédecine va remplacer les médecins, ce qui est absolument faux. Et la télémédecine, c'est pas de la vraie médecine. Et moi, je trouve que c'est complémentaire. Aujourd'hui, on a numérisé la relation avec sa banque, mais ça n'empêche pas d'aller voir son banquier. Mais par contre, quand on fait un virement, on le fait d'une certaine façon en digital. Donc, la combinaison des deux, c'est ça l'intelligence qu'on va pouvoir mettre demain dans les parcours de soins. C'est l'intelligence collective qui permet de combiner un certain nombre d'éléments. Et la visite présentielle, encore une fois, si vous avez un problème de peau où le télédermatologue va vous dire, écoutez, il faut l'enlever, ce bouton parce qu'il n'est pas bien, vous allez quand même finir chez le dermatologue. Et on renvoie, nous, systématiquement dans le parcours de soins en disant, allez voir votre médecin traitant. Donc, il faut peut-être arrêter cette guéguerre, en fait, qui est tout à fait stérile, parce que les patients, eux, savent très bien comment accéder aux soins en utilisant la télémédecine ou en utilisant leur propre médecin. Et nous, on soutient tout à fait la médecine de terrain. Donc, c'est quelque chose d'un peu stérile.
Est-ce qu'en téléconsultation, on peut prescrire de la même manière ?
Exactement de la même manière, puisque c'est un examen, c'est une consultation médicale à part entière qui se fait à distance, mais vous avez toujours un médecin en face d'un patient, avec un patient, donc c'est la même, exactement la même méthodologie et les mêmes conditions, la même responsabilité du médecin d'ailleurs. C'est pour ça qu'il prend beaucoup plus de soins en télémédecine, parce que comme vous n'avez pas le patient en face de vous. en face de vous, ben vous devez prendre beaucoup de précautions. Donc on est tous conscients de ça, hein, et je pense que d'autres pays font de la télémédecine depuis 20 ans et ça pose absolument aucun problème. Et c'est juste une question d'usage, et je pense que les usages pendant la crise Covid ont été largement démontrés.
Et il y aura un enjeu là-dessus à surveiller d'ailleurs en termes de développement de la 5G, hein, la nouvelle génération de réseau, la 5G. On aura l'occasion de reparler de l'apport éventuellement pour le monde de la santé. Vincent nous écrit justement, puisqu'on parlait de la technologie, il y a quand même un énorme risque au niveau de nos données personnelles, écrit Vincent. Les appareils électroniques peuvent nous écouter, compiler des informations sur nous. Je suis très méfiant, nous dit Vincent.
Ouais, je pense qu'il faut pas l'être parce que en France on a on respecte ce qu'on a le vous savez ce qu'on appelle le règlement le RGPD. On respecte un certain nombre de conditions qui ont été imposées pour la sécurisation des données. Toutes les données de santé sont hébergées en France. Chaque pays qui a un système comme ça héberge ses données dans son pays. C'est une réglementation internationale. Donc il y a pas de. Moi je pense qu'il faut démystifier un peu le problème de risque de données. C'est sûr que si vous allez sur Internet et je vais pas citer de système de recherche, là vous avez plus de traces que vous laissez que quand vous allez sur une plateforme de téléconsultation ou que vous faites une consultation en visio avec votre médecin. Donc il faut rassurer tout le monde sur le fait que non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. En plus, au niveau de ma santé 2022, on est en train de mettre les outils qui permettent ce qu'ils appellent les outils socles, qui permettent de renvoyer toutes ces données vers soit le DMP et de faire un certain nombre de partage d'informations. Donc tout ça est réglementé, tout ça est sécurisé. Et je pense qu'il faut rassurer les auditeurs sur le fait qu'il n'y a absolument aucun problème aujourd'hui sur la sécurisation des données.
Dernier mot, et je me fais reprendre au vol par Noël, j'aurais presque pu commencer par là. Quand on parle des déserts médicaux, Noël nous rappelle tout de même l'enjeu dans ces déserts médicaux, c'est bien de désengorger les services d'urgence.
Alors, il n'y a pas que ça, parce qu'il y a quand même nous, on a des verbatim, des gens qui nous reportent un certain nombre de choses en disant... Ben écoutez, moi je suis dans un village où il me reste un pharmacien, mais j'ai plus du tout de médecins. Ils sont partis à la retraite. Il faut savoir que 60% des médecins ont plus de 60 ans dans pas longtemps. Donc ils vont partir à la retraite. Et puis les nouveaux médecins qui arrivent, ils ont peut-être pas envie de faire le même rythme de travail, et je les blâme pas, que leurs anciens. Donc on a un déficit de temps médical. Ce temps médical, il faut le retrouver, et c'est quelque chose qui manque beaucoup dans certains endroits. Il faut bien sûr mettre une présence territoriale, parce que je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il faut qu'il y ait des relais territoriaux pour la santé, et ça fait partie de ce qui est en train d'être fait et autres et tout. Mais il faut pas exclure la possibilité d'apporter ce que moi je dis la plupart du temps, c'est il y a des trous dans la raquette, on le sait tous. Ben, est-ce que la télémédecine peut apporter un complément intelligent et qui n'est peut-être pas le même d'un territoire à un autre d'ailleurs?
Merci François Lescure. Merci d'avoir répondu à nos auditeurs, merci. D'avoir présenté un petit peu. On entend votre appel, hein, vous demandez un remboursement élargi, que l'on puisse prolonger ces expériences de téléconsultation après le confinement, après le Covid désormais. François Lescure, pharmacien, président de l'Association des entreprises de télémédecine, président d'une plateforme, en l'occurrence Médecin Direct. Merci d'avoir répondu à nos auditeurs ce matin, et nous surveillerons le sujet. Bien sûr, et nous surveillerons le sujet avec également aussi, au-delà des déserts médicaux, la perspective des fractures numériques également, parce qu'il va falloir pouvoir se connecter 4G, 5G. On aura l'occasion d'en reparler, évidemment. Là aussi, on raconte le monde qui change. Très bon réveil à tous, 8h45.
Europe 1. Et à suivre la revue de Presque, Nicolas Cantelou, jeudi sur Europe 1. Europe 1, 8h47.
Et les revoilà, Nicolas Cantelou avec Julie.
Un petit best-of, c'est presque de l'info, c'est la revue de Presque. De Nicolas Cantelou, presque du direct. Les grèves se poursuivent au sujet de la réforme des retraites et notamment la grève des avocats qui se durcit. Les procès sont reportés. On a un appel de la prison de la santé. Bonjour Patrick Balkany.
Ah, mais alors, encore une bonne nouvelle pour Bibi. Alors avant j'avais des avocats nuls, maintenant j'ai des avocats
en grève. Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas.
Alors, la grève des avocats fait scandale, car elle fait libérer les prévenus sans procès. Hein, ça
oui, 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 sans procès. Et puis, accessoirement, elle fait rester en tôle des gars comme moi. Vous gênez pas, surtout, hein, les avocats. Hein, prenez votre temps. Hein, faites grève 6 mois. Moi, j'attends. Hein, je suis peinard ici, et le jeune nourri. Hein, c'est souhaite... ça l'idée.
On vous souhaite bon courage, en tout cas. Hein.
Je pense à tous les malins qui ont pensé que quand j'ai été incarcéré début octobre, hein, qui disait la justice est pourrie, il va sortir au bout de 24 heures. Bien vu les gars, hein.
C'est pas faux, hein. Merci Patrick Balkany. Ouais. Alors on va demander son avis à un avocat justement, Maître Dupont-Moretti.
Ah, cette feignasse, ce glandu, bah, je vais l'écouter.
Monsieur mais... Balkany, s'il vous plaît, allez, on laisse parler Monsieur Dupont-Moretti.
Madame Leclerc, oui, je le dis tout de go, nous sommes en grève pour sauver notre régime de retraite que le gouvernement veut piller. Donc nous le disons aux hommes politiques, quand vous ferez choper parce que vous avez magouillé votre déclaration de patrimoine, il ne faudra pas venir ensuite chialer dans nos cabinets. Hein, quand on pense qu'on les a tous défendus pour leur compte en Suisse, nous faire ça, je le dis, vous ne manquez pas de culot.
Merci maître. Rachida Dati, qui crée donc la surprise, et n'arrête pas de monter dans les sondages pour les municipales à Paris. Nicolas Sarkozy, bonjour, vous êtes un ami de Rachida.
Oui, bonjour à vous, et merci à vous de m'accueillir. Oui, écoutez, Rachida, effectivement, flavue d'œil, et je... Oui, oh non,
quoi
non.
Je
parle des sondages, n'ayez pas l'esprit mal placé.
Non. Bon, alors
pas ce genre d'humour.
Non, c'est bon.
C'est pas le genre de la maison de se moquer du physique.
Pas du tout. Allez, cette popularité soudaine tient dans son programme ultra sécuritaire et qui séduit les Parisiens finalement.
Voilà, alors Rachida, son idée, quoi qu'est-elle. Pardon. Excusez-moi, j'ai fait une faute d'accord. Quoi qu'elle est. Quoi qu'elle est, mais qu'elle veut mettre en fait un policier derrière chaque Parisien. Et vous savez comment qu'elle a eu l'idée ?
Non.
Qui c'est que son maître a pensé ?
Bah vous, non ? Vous avez été ministre de l'Intérieur, non ? C'est ça ?
Eh ben non. Ah. C'est pas moi. Son maître a pensé, c'est Christian Dior.
Christian Dior.
Mais écoutez, qu'est-ce qu'il y a à l'entrée de chaque bouquite, comment on dit, de chaque boutique Dior? Oui, c'est les enfoirés, 3h du matin,
oui,
on a des
bon,
fois
si
les,
on a compris.
Les syllabes qui... Oui, mais si on peut faire un peu de pub au caritatif, ça fait pas de mal. Je sais que vous n'avez pas de cœur, Mme Julie, ça vous regarde. Donc qu'est-ce qu'il y a à l'entrée
de chaque boutique Dior?
Hein, eh bien, il y a un vigile.
Ah.
Ben Rachida, elle veut faire ça pour tout Paris. C'est ça la marque des grands, de s'inspirer de son quotidien pour trouver des idées. Et je peux vous dire que Rachida, aller chez Dior, c'est vraiment son quotidien.
Eh bien, merci Nicolas Sarkozy. Le débat sur la réforme des retraites se déplace sur la pénibilité, une question sur laquelle le gouvernement met en avant Muriel Pénicaud, la ministre du Travail. Bonjour Muriel Pénicaud.
Bonjour Madame Julie, bonjour à toute la rédaction du studio avec tous les tout le monde. La pénibilité. La pénibilité, c'est vrai, il y a des gens qui... Des métiers qui sont pénibles. Par exemple, si vous prenez un pompier.
Un pompier, d'accord.
On prend un pompier. Les pompiers, ça a l'air de brut, net, 1280 euros net.
Oui.
Un pompier, ou un policier, pareil. Donc la pénibilité, ça consiste à dire que le pompier va gagner plus que le policier ou un militaire, parce que ça consiste à dire qu'au moment où le pompier partira à la retraite, il sera retraité. Parce qu'il ne travaillera plus, parce que son travail était pénible.
Bon, ben, j'ai rien compris. Alors, un pompier qui part à la retraite, ce sera un retraité.
C'est... Non, et oui, parce que... non, c'est parce que c'était un mauvais exemple. Mais prenons un pompier. C'est pas le même métier qu'un cheminot. Alors le cheminot, sa pénibilité, lui, elle est moins pénible que l'impénibilité d'un policier.
Eh ben, j'ai rien compris. La situation est terrible en Australie. 500 000 millions d'animaux sont morts depuis le début des incendies. D'autres, comme les dromadaires, entrent dans les villes et ils sont abattus. Les écologistes sont terrifiés. Ils alertent sur la situation.
Oui,
Oui, oui, ah oui, bon, oui, vous reconnaissez. Oui. Vous.
Bonjour, madame Julie. Bonjour. Écoutez, c'est bonjour à toute votre équipe. C'est un véritable drôme.
Oui, madame.
C'est un drôme. Et pourtant, beaucoup de gens ne comprennent pas toujours l'ampleur du problème. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire preuve de pédagogie ce matin.
Ah, très
et
bien.
De dire. Oui, voilà. Bonjour! Le message passera bien avec ce générique de 30 millions d'amis. Bienvenue dans 30 millions d'amis. Enfin non, c'est plus tout à fait 30 millions, du coup, c'est 3 amis, puisqu'il ne reste plus en Australie qu'un ornithorin, qu'un koala et un dromadaire. Et que nous avons...
Oh là! Ah, mais quelle horreur!
Oh. Oui. Alors, petite mise à jour, il ne reste plus qu'un ornithorin et un koala.
Ah bah oui, le dromadaire, alors.
Regardez comme ces deux animaux sont majestueux. Et c'est vrai que...
Là.
Ah ben non. Oh ben merde alors, mais non. Oui, donc il reste plus qu'un ornithorynque maintenant. Ce que je voulais vous dire ce matin, c'est que nous avons cet ornithorynque qui est magnifique et qui... Oula. Non mais vous êtes con ou quoi? C'est pas un dromadaire, c'est un ornithorynque, bande de cons. Gros bourrin. Bon ben ça y est, il y a plus d'amis, donc bienvenue dans 0 million d'amis, Yves Lostroli.
Allez, on en vient à la tempête Gloria qui s'est abattue dans les Pyrénées. On va faire un point sur la situation avec un habitant de la région, Jean Lassalle, bonjour.
Ah, bonjour. Écoutez, ici dans nos belles Pyrénées, la neige continue de tomber, mais nous nous tenons chauds les uns les autres. Ah. Moi, je suis actuellement mitouflé, bien protégé du froid entre deux moutons, voilà. Si la régie était bonne, nous aurions eu un petit débrotage de moutons, mais c'est trop tard. Et puis, vous voyez, il y a quelques musaraignes qui s'abritent dans mon nez.
Ah non.
Si, elles aiment bien nos chauves, elles se blottissent dans mes touffes de poire.
Oh non, arrête.
Tout va bien.
Mais tout de même, plus de
il ne faut pas que je me mouche, en revanche. Sinon, elles vont avoir l'impression de vivre une inondation du Gap.
On a écouté ça, plus de 1000 foyers ont été privés d'électricité.
Pardon, vous avez dit quoi?
Bah, d'électricité, ils ont été privés d'électricité.
Privés de... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est nouveau. L'éclecticité.
Non, l'électricité.
Électricité.
Ce qui permet de faire marcher la lumière, le chauffage, la cuisine, enfin bon.
Électricité.
L'électricité.
Mais c'est au pluriel, l'électricité. Non, nous n'avons pas ça ici.
Ah bon?
Non, pour la lumière, vous savez, nous sommes de façon traditionnelle. Mmh. Moi, j'ai des bougies en graisse de putois. L'avantage de la bougie en graisse de putois, c'est que ça réchauffe, ça donne la lumière et en plus, ça fait diffuseur de parfum. Et puis pour la cuisine, je vous amènerai, monsieur Béard. Bon, ça ne vous changera pas beaucoup de l'ambiance de la maison. Et pour la cuisine, on ramasse un furet, on le vide avec un petit râteau qu'on trouve chez Jardeland ou chez Truffaut, et on le mange cru, accroupi dans la forêt.
Accroupi dans la forêt.
Ah, c'est sûr. Oh, ben, on ne vit pas comme vous à Paris avec vos coussins et vos je ne sais quoi, comment on appelle ça, des brosses à dents.
Nicolas Canteloup et Julie, la revue de presse qu'à retrouver bien sûr sur Europe1.fr. Philippe Vandel est là déjà en studio avec nous. Culture Média sur Europe 1, c'est la matinée qui continue. Bonjour Philippe.
Ouais, bonjour Mathieu, la matinée continue et juillet commence. Trois anniversaires, trois chiffres, 75, 25, 90. Le bimestriel CA Espace de notre ami Alain Siroux, 75 ans, il a été fondé en 45. Il sort aujourd'hui un numéro spécial pour les jeunes, les essentiels pour débuter en astronomie. J'adore ça, l'éternel recommencement. Jean-Marc Lalanne, le patron des
Arocs. Vous dites ça là, je me dis tiens, cet été, mes enfants, l'essentiel pour débuter, c'est pas
mal. Et alors, il y a une carte du ciel interactive, on tourne suivant l'heure, le jour, on voit exactement quelles seront les étoiles devant notre nez, comment il faut se repérer, c'est absolument magique.
Je vais acheter ça, je vais faire ça avec mes enfants cet été.
Très simple, j'en ai peut-être un, je peux même vous le donner, je crois.
Non, je vais le payer, vous savez, il faut soutenir la presse.
Vous avez absolument raison, on va soutenir la presse avec Jean-Marc Lalanne, qui est le patron des Inrocks, et les Inrocks, ça sera leur 25e anniversaire cet été, et je sais pas si vous allez acheter pour vos enfants, parce que c'est un spécial sexe qui sort là juste pour l'été.
Vous l'avez ouais. Vous
le
donnez?
Évidemment. Ah, celui-ci, vous le voulez. Il ne va pas les lâcher. Et enfin, l'inoxydable Hugo Frey, 90 ans, il sort un nouvel album. Ça s'appelle Autoportrait. Il y aura évidemment son portrait inattendu. On entend Stu Ball.
C'était un cheval blanc.
C'est quand même dingue. 60 ans de carrière.
Julie est en train de danser.
90 ans, le gars.
C'est quand même à lui qu'on doit Bob Dylan.
Exactement.
Notamment,
c'est lui qui l'a découvert en 61, alors qu'il n'était absolument pas connu. Il a traduit ses premières chansons alors qu'il ne parlait même pas anglais.
Rien que ça. Hugo Frey dans Culture Média ce matin avec Philippe Vandel. Merci Philippe.
Merci.
La matinée continue avec vous, bien sûr. Ombline nous revient demain matin.
Oui, on sera encore là à 5h avec Julien Pierce.
Je serai là en direct à 6h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.
C'était Mathieu Bellière sur Europe 1.
Europe 1.